de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditrices auditeurs. Dans le monde entier, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les nouvelles de l'Indonésie et d'autres infos tels que l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, magazine culturel, l'Indonésie en couleur et une chanson indonésienne. Bon, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz sur le site web www.voanews.id. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec le titre. L'Indonésie regrette l'échec du Conseil de sécurité de l'ONU à ratifier la résolution sur l'addition à part entière de la Palestine à l'ONU. L'armée de l'air indonésienne a établi une coopération dans le secteur de la défense avec l'armée française. Pertamina et Eni Italie ont signé une coopération dans la gestion du pétrole et du gaz en amont. Chers amis, nous présentons maintenant le journal en complet. L'Indonésie exprime ses regrets face à l'échec du Conseil de sécurité des Nations Unies à ratifier l'adhésion de la Palestine à l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas réussi pour la énième fois à produire une résolution concernant l'adhésion à part entière des Palestiniens à l'ONU en raison du veto exercé par les États-Unis en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère indonésien des Affaires étrangères, M. Lalu Muhammad Iqbal, dans une déclaration à Jakarta vendredi. Selon Iqbal, l'Indonésie estime que la Palestine n'a pas fait de progrès vers l'adhésion à part entière à l'ONU depuis qu'elle a obtenu le statut d'État observateur à l'ONU en 2012. L'Indonésie souligne que le mécanisme de veto des États-Unis lors de la session du Conseil de sécurité de l'ONU entrave les efforts visant à créer la paix au Moyen-Orient.
Indonesia sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan PBB.
L'Indonésie regrette profondément l'échec du Conseil de sécurité de l'ONU pour la énième fois à adopter une résolution concernant l'adhésion à part entière de la Palestine à l'ONU. Uniquement en raison du veto d'un des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous avons déjà que des progrès, l'adhésion à part entière de la Palestine à l'ONU sont bloqués depuis que la Palestine a obtenu le statut d'État observateur à l'ONU en 2012, malgré le plein soutien de la majorité des autres membres de l'ONU. Ce veto est une trahison de nos aspirations communes à créer une paix durable au Moyen-Orient. Mohamed Iqbal a ajouté que l'Indonésie s'est engagée à continuer de soutenir la Palestine à l'ONU. L'Indonésie est optimiste quant au fait que l'ONU donnera à la Palestine une position égale parmi les pays dans le processus de paix vers une solution à deux États. Lors d'un vote jeudi 18 avril, heure locale, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas adopté de projet de résolution qui recommanderait à l'Assemblée générale de procéder à un vote avec l'ensemble des membres de l'ONU pour permettre à la Palestine d'adhérer en tant que l'État membre à part entière de l'ONU. La résolution a reçu le soutien de 12 voix pour, une contre et 2 abstentions. Le projet de résolution est l'un des plus courts de l'histoire du Conseil de sécurité, qui stipule que le Conseil de sécurité, après avoir examiné la demande d'admission de l'État de Palestine à l'ONU, recommande à l'Assemblée générale de l'État de Palestine soit accepté comme membre de l'ONU. L'armée de l'air indonésienne ou TNI AU et de l'armée de l'air française ont mené vendredi une coopération militaire afin de renforcer la défense de l'espace aérien. Dans le communiqué officiel de l'armée de l'air indonésienne reçu vendredi, il a été expliqué que cette coopération était convenue par Air Staff Talk de l'armée de l'air indonésienne et la force aérienne et spatiale française lors d'un forum qui a eu lieu à Yogyakarta jeudi 18 avril. La délégation de TNI AU, à savoir l'assistant adjoint pour les opérations, Kasau Marsma TNI Untung Surapati, a déclaré la coopération réalisée, notamment dans les domaines de la formation, l'éducation, l'expert en échange de sous-sé et des opérations aériennes. La délégation de la Force aérienne et spatiale française, le général de brigade Hugh Pisevan, s'est également félicité d'un bon projet de coopération militaire. Avec ce programme de formation conjointe, les deux pays ont la possibilité d'échanger du personnel, des instructeurs et du matériel pédagogique. Non seulement cela, cet exercice permet également aux deux pays d'échanger des experts ou du personnel spécial dans le domaine de la tactique et du système d'armes principales. En dehors de cela, cet exercice permet également aux deux pays d'échanger des expériences et des techniques d'opération aérienne dans la protection du territoire du pays. PT Pertamina et la Société pétrolière et gazière italienne ENISPA ont signé un protocole d'accord pour explorer le potentiel projet d'exploration et de production de pétrole et de gaz dans plusieurs blocs internationaux afin de soutenir la sécurité énergétique nationale. Le directeur du président de Pertamina, Mme Nike Widiawati, a déclaré dans un communiqué reçu samedi à Jakarta que ce protocole d'accord renforcerait la synergie qui existait auparavant entre Pertamina et ENISPA, à la fois dans les zones opérationnelles de l'Indonésie et dans la coopération potentielle dans des blocs étrangers tels que l'Afrique et le Moyen-Orient. Mme Nike Widiawati a déclaré dans un communiqué reçu samedi à Jakarta que ce protocole d'accord renforcerait la synergie qui existait auparavant entre Pertamina et ENISPA. La signature du protocole d'accord a été réalisée par le directeur de la stratégie, du portefeuille et du développement commercial de Pertamina, M. Salyadi Darya Saputra, et le directeur en amont d'ENISPA, Luca Fignati, à Amsterdam, les Pays-Bas, vendredi 19 avril. Selon Nike, ENISPA est l'une des sociétés pétrolières et gazières qui ont mené avec succès des activités d'exploration. ENI considère également l'Indonésie comme l'un des axes de ses activités à l'étranger. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministre indonésien des Finances préside la réunion de la coalition des ministres des Finances pour l'action climatique pour atteindre l'objectif de la contribution déterminée au niveau national. La ministre des Finances Sri Mulyani Indrawati a présidé la 11e réunion de la coalition des ministres des Finances pour l'action climatique pour atteindre l'objectif de la contribution déterminée au niveau national à Washington DC aux États-Unis. Elle a présidé la réunion avec le ministre néerlandais des Finances, Stefan van Weyenberg. Sri Mulyani, dans sa déclaration reçue vendredi à Jakarta, a déclaré que le rôle des ministres des Finances est très important pour atteindre les objectifs de contribution déterminés au niveau national de chaque pays. Non seulement les contributions financières, mais inclut également une participation réelle au processus de préparation, révision et la mise en œuvre de la contribution déterminée au niveau national. En dehors de cela, cela s'inscrit également dans les efforts visant à développer des politiques macroéconomiques et fiscales saines. Lors de la réunion, trois sujets de discussion ont été discutés, à savoir encourager le rôle du ministère des Finances dans le soutien de la mise en œuvre de la CDN, suppression progressive des subventions préjudiciables à l'environnement et mobilisation des marchés mondiaux pour financer la transition. Srimulyani a souligné que la réunion était un forum important permettant aux ministres des Finances de partager leurs expériences et leurs meilleures pratiques. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, M. Sandiaga Salahuddin Uno, espère que les résultats de la mise en œuvre du projet de marque de propriété intellectuelle de Bali auront un impact direct sur l'augmentation de la valeur des exportations et de qualité des produits des micro, petites et moyennes entreprises. Son parti voit le potentiel d'accroître la valeur des acteurs de l'économie créative, notamment dans le secteur du spa et de l'artisanat, grâce à ce programme de collaboration impliquant les ministères, institutions et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. C'est ce qu'a déclaré Sandiaga Uno lors de sa participation à la clôture du projet de marque de la propriété intellectuelle à Bali, le Gien, dans la région de Badung, Bali, vendredi. Il a déclaré que les résultats du projet visant à renforcer la propriété intellectuelle pour les acteurs du tourisme et de l'économie créative ont été immédiatement remis au gouvernement provincial de Bali, qui devrait également ouvrir des opportunités commerciales et des opportunités d'emploi à mesure que l'économie de Bali se dresse. Sandiaga Uno a expliqué que son parti, avec les autres agences connexes, telles que le ministère du Droit et des Droits de l'Homme, continuera à l'avenir à accroître la connaissance des droits de propriété intellectuelle, notamment pour les acteurs de micro, petites et moyennes entreprises. La Nouvelle-Zélande a déclaré qu'elle contribuerait à hauteur de 25 millions de dollars américains, soit environ 403 milliards de roupies à la transition énergétique verte, aux efforts visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la région de l'Asie du Sud-Est. Le premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon et le ministre du Changement climatique Simon Watt ont déclaré vendredi que les fonds seraient acheminés via le mécanisme de transition énergétique organisé par la Banque asiatique de développement. Luxon a déclaré dans un communiqué publié depuis Mani a déclaré que le mécanisme de transition énergétique était une initiative de transformation qui exploite le financement public et privé pour stimuler la fermeture et la réutilisation des centrales alimentées aux combustibles fossiles et les remplacer par des sources d'énergie plus propres et renouvelables. Le financement de 25 millions de dollars sera concentré sur l'Indonésie, les Philippines et le Vietnam dans sa phase initiale. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Lin Jian, a déclaré que l'action des États-Unis a opposé leur veto à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU avait détruit les rêves du peuple palestinien. Lin Jian, lors d'une conférence de presse régulière à Pékin, la Chine, vendredi, a déclaré que l'histoire et la communauté mondiale n'oublieraient pas cet acte insensé. On sait que les États-Unis ont opposé leur veto jeudi 18 avril à un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant une adhésion à part entière de la Palestine à l'ONU. Le Conseil de sécurité de l'ONU, composé de 15 membres, s'est réuni à New York pour voter un projet de résolution soumis par l'Algérie recommandant l'acceptation de l'État de Palestine comme membre de l'ONU. L'adhésion a été bloquée par 12 voix pour et 2 abstentions, y compris le Royaume-Uni et la Suisse. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Vous écoutez la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique L'accueil diplomatique intitulé Le potentiel de coopération de l'Indonésie et de la Chine dans les domaines de l'agriculture et de la pêche. L'ambassadeur d'Indonésie en République populaire de Chine, M. Jauhari Oratmangun, estime que l'Indonésie et la Chine ont le potentiel de coopération dans le domaine de l'agriculture et de la pêche. L'ambassadeur Jauhari à Jakarta mardi estime que le secteur de l'agriculture et de la pêche en Chine est assez bon et assez avancé. Selon lui, diverses collaborations menées par les deux pays peuvent contribuer à la croissance économique de l'Indonésie. L'ambassadeur Jauhari a également déclaré que le secteur de tourisme apporte une assez grande contribution à l'économie indonésienne. Il espère qu'il deviendra à ce qu'il était avant le COVID-19. Plus de 2 millions de touristes chinois ont visité l'Indonésie avant le COVID-19. Il a déclaré qu'une chose qui continue d'être promue est la coopération entre l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est ou ASEAN et la Chine. Selon lui, si l'ASEAN est forte et que l'économie de l'ASEAN est bonne, l'Indonésie tirera des avantages significatifs. L'ambassadeur Jauhari a déclaré qu'au cours des trois dernières années, l'ASEAN était le plus grand partenaire commercial de la Chine, avec une valeur commerciale près de 1 000 milliards de dollars américains, soit environ 7,2 quadrillions de roupies. Il a ajouté que l'Indonésie pourrait en bénéficier si elle faisait bon usage de la coopération entre l'ASEAN et la Chine. Concernant la coopération dans le domaine de l'éducation, l'ambassadeur Jauhari a déclaré que plus de 20 universités en Chine fournissent des cours d'indonésien. En dehors de cela, l'Indonésie a facilité plusieurs collaborations, y compris la coopération dans le domaine des écoles polytechniques, parce que l'Indonésie a besoin d'écoles polytechniques. Chers amis, c'est à l'orbite l'accueil diplomatique de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire du jeudi. Je commence avec les événements du 20 avril 1972, l'inauguration de Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah a commencé la construction en 1972 et a été inauguré le 20 avril 1975. La création de Taman Mini Indonesia Indah était l'idée de la première dame de l'époque, à savoir Madame Tien Soeharto. L'idée initiale du développement était d'inviter les visiteurs à connaître et comprendre toutes les provinces d'Indonésie. Divers aspects des richesses naturelles et culturelles de l'Indonésie et l'utilisation de la technologie moderne sont démontrés sur une superficie de 150 hectares. Un résumé de la culture de la nation indonésienne qui couvre divers aspects de la vie quotidienne des habitants de 33 provinces indonésiennes est exposé dans un pavillon régional à l'architecture traditionnelle et présente divers vêtements, danses et traditions régionales. Aujourd'hui, on peut comprendre 33 provinces d'Indonésie à travers les maisons traditionnelles. En dehors de cela, à Taman Mini Indonesia Indah, il y a également plusieurs musées, tels que le musée du Timor Oriental et le musée de l'information. Le 20 avril 1998, la création du Parti de la Justice Prospère, ou PKS, anciennement connu sous le nom de Parti de la Justice. Il est un parti politique islamique qui a des représentants au Parlement indonésien. Ce parti a été fondé le 20 avril 1998 et commencé comme un mouvement d'activité de dakwah islamique depuis les années 1980. Je termine l'histoire aujourd'hui avec l'événement l'éclipse solaire hybride le 20 avril. Le phénomène de l'éclipse solaire hybride du 20 avril 2023 peut être observé depuis l'Indonésie. Citant brin.go.id, une éclipse solaire hybride est une éclipse solaire qui apparaît dans certaines régions de la Terre comme une éclipse solaire totale, mais dans d'autres régionales, elle apparaît comme une éclipse solaire en nano. Éclipse solaire hybride est causée par des changements dans la distance entre la surface incurvée de la Terre et la Lune, en tant que l'objet bloquant le Soleil lors d'une éclipse solaire. À cette époque, une éclipse solaire totale s'est produite dans plusieurs régions de l'Est de l'Indonésie à partir 13h21, heure de l'Est de l'Indonésie. Les zones qui ont connu une éclipse solaire totale comprenaient Abiak en Papouasie et l'île de Kisar au Moluques. Pendant ce temps, les zones qui ont connu une éclipse solaire partielle étaient à Yogyakarta, Semarang, Bandung, Jakarta, Mataram et Ambon. Chers amis, c'était l'histoire jeudi de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Bebas terbentang di awan menari la 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 la. Soy toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voanews.id. Et voici la rubrique Mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie. Cette fois, nous allons vous présenter la ministre des Finances transmet la stabilité économique de l'Indonésie à l'Union européenne. La ministre indonésienne des Finances, Madame Sri Mulyani Indrawati, a transmis à l'Union européenne la stabilité macroéconomique de l'Indonésie dans un contexte de volatilité économique mondiale. Communiqué de presse du ministère des Finances a déclaré, Sri Mulyani l'a transmis lors d'un dialogue avec le commissaire de l'Union européenne aux affaires économiques, Paolo Gentiloni, à Washington DC, les États-Unis, mercredi, heure locale. Sri Mulyani a également expliqué que les outils fiscaux de l'Indonésie agissent comme des amortisseurs afin que l'Indonésie puisse continuer à maintenir la stabilité de sa politique budgétaire et créer un niveau élevé de confiance dans l'économie. Sri Mulyani a déclaré que le dialogue était une étape importante dans l'établissement d'une collaboration entre l'Indonésie et l'Union européenne. Dans ce cas, les deux parties ont souligné leur engagement à approfondir la coopération basée sur les principes de commerce ouvert et d'une coopération multilatérale forte. Elle a également apprécié le soutien de l'Union européenne à la présidence indonésienne du G20 en 2022, ainsi qu'à l'adhésion de l'Indonésie à l'Organisation de coopération et de développement économique. Selon Sri Mulyani, ce soutien est non seulement symboliquement important, mais a également un impact très significatif et substantiel sur le progrès et le développement de l'Indonésie. Pour cette raison, la ministre Sri Mulyani espère que cette réunion pourra être le point de départ d'une nouvelle ère dans les relations entre l'Indonésie et l'Union européenne, de créer un engagement à construire une compréhension mutuelle et accroître la confiance mutuelle. Sri Mulyani a assisté aux réunions de printemps du FMI à Washington DC. Au cours de la réunion, Sri Mulyani a parlé de la situation économique mondiale, régionale et nationale qui change très rapidement et volatile au cours des prochains jours avec les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et également dans diverses parties du monde. Cette situation a un impact énorme sur l'économie mondiale, à la fois en termes de prix des matières premières, de taux de change, de taux d'inflation et de taux d'intérêt mondiaux. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Suaramu tak akan
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter Ketok Semprong, une tradition de l'Aït Ketupat à Bali. Le Baran Ketupat ou l'Aït Ketupat fait partie d'une série de célébrations de l'Aït al-Fitr. Cette tradition a généralement lieu une semaine après l'Aït al-Fitr, le premier Shawwal. C'est pourquoi, dans certaines régions, la tradition l'Aït Ketupat est mieux connue sous le nom d'activité Shawwalan. Dans le village de Candi Kuning, Batu Riti Tabanan Bali, a une tradition pratiquée par la communauté musulmane, connue sous le nom de la tradition Ketok Semprong. Ketok Semprong signifie beaucoup et aussi interprété comme l'Aidul Ketupat ou Lebaran Ketupat. D'habitude, des centaines d'habitants se rassemblent au jardin botanique Eka Karya Bali ou au jardin botanique Bedugul dans le district de Batu Riti Tabanan Bali. Les personnes qui viendront apporteront également leur propre nourriture et des tapis pour s'asseoir et manger ensemble. Cette tradition se déroule du matin jusqu'au soir. Dans cette tradition, on fait megibung sagi ou manger ensemble. Chacun entre deux fera ressortir divers aliments qui doivent être disponibles comme le riz, la viande, le poulet, le poisson, les légumes et les épices et aussi les autres selon ce qui est cuisiné. On peut utiliser du bœuf ou du mouton. L'important, c'est qu'il doit être cuisiné avec des épices. La nourriture est ensuite mangée ensemble, assise en cercle. Tout en dégustant de la nourriture, les résidents regarderont des arts islamiques tels que rodat, qasidah et hadrah. L'objectif de la réalisation de cette tradition est de mettre en œuvre les valeurs religieuses dans nombreuses dimensions, L'un d'entre eux est de maintenir l'harmonie entre les communautés religieuses afin que cette activité puisse être utilisée comme un moment pour accroître l'harmonie entre les communautés religieuses. Et pour les habitants de Candi Kuning, cette tradition est aussi un lieu de rencontre non seulement avec les parents et la population locale, mais aussi comme lieu de rencontre pour le peuple et les dirigeants. Chers amis, c'était Magazine Culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta, intitulé Ketok Semprong, une tradition de l'aide ketupat à Bali. Merci à tous, à bientôt.
Cinta, kau ajarkan aku bahagia. Kau sembuhkan hati yang luka. Beruntungnya aku ada di sampingmu. Jangan pernah berpisah sampai kita menutup mata. Demi nama cinta, aku kan setia. Selalu lagi-lagi kamu, lagi-lagi dirimu yang ada di otakku. Namun tak pernah bosan, selalu menyenangkan. Selalu lagi-lagi kamu, lagi-lagi dirimu yang selalu buat aku jatuh cinta. Lagi-lagi kamu. Cinta, kau ajarkan aku bahagia. Sembuhkan hati yang luka. Beruntungnya aku ada di sampingmu. Jangan pernah berpisah sampai kita menutup mata. Demi nama cinta, aku kan setia.
of Indonesia.
Charmi, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons vous présenter un brasseur indonésien remporte le troisième titre de championnat du monde à la Coupe du monde des brasseurs 2024. L'industrie indonésienne du café a réalisé de brillantes réalisations sur la scène internationale avec le succès récemment remporté par un barista indonésien lors de la Coupe du monde des brasseurs 2024. Le brasseur, qui s'appelle Rian Wibawa, a réalisé un exploit extraordinaire lors de la Coupe du monde des brasseurs 2024 en tant que troisième champion du monde. Semblable à un barista, un brasseur est une personne qui maîtrise également le monde du café. La différence est que les brasseurs sont connus pour être habitués à préparer des boissons au café en utilisant des méthodes manuelles. Cette information a été transmise officiellement sur le compte Instagram qui est l'Association indonésienne des cafés de spécialité. Le communiqué écrit « Trois cafés de trois pays » également « L'excellence de l'Indonésie unie dans la diversité » ou « Bhinneka Tunggal Ika » ont amené Rian Wibawa à devenir le troisième champion du monde de la Coupe du monde des brasseurs 2024. Rian Wibawa a également exprimé son bonheur de sa gratitude via un téléchargement sur Instagram. Le concours de la Coupe du monde des brasseurs 2024 est une compétition destinée aux brasseurs du monde entier, donc la qualité a été reconnue. Cet événement recherchera le meilleur brasseur du monde capable de très bien présenter la préparation du café manuellement ou sans machine à espresso. Cette année, la Coupe du monde des brasseurs 2024 s'est tenue à Chicago aux États-Unis du 12 au 14 avril 2024. Jérémy, c'était la rubrique l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous, à bientôt.
Yo, are you ready for this? Cause I'm ready. Let's roll, girl.
Kamu, aku dan dia, kita semua sama. Ingin meraih mimpi dan mewujudkan cita-cita. Walau semangat kadang meredah, itu wajar saja. Thank you.
Puja kita tunjur lawa de Leonesi di Fuzo de Pi Jakarta. Cher sami, avant de terminer cette émission, comme d'habitude, nous allons vous présenter d'abord une chanson indonésienne.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici le magazine Musica. Dans cette édition, nous vous présentons une chanson de Keroncong intitulée Rindu Tapi Malu, chantée par Afifah. La chanson Rindu Tapi Malu a été créée par Faisal Asahan. Cette chanson raconte le désir de quelqu'un de son idole. Même si elle était remplie de nostalgie, elle était gênée de l'exprimer. Cette chanson est sortie sur les plateformes numériques le 9 décembre 2023 et a été popularisée par la chanteuse Happy Asmara. Bon, chers auditeurs, voici Afifah dont le titre est Rindu Tapi Malu. Bonne écoute!
Entah mengapa
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.